RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, ce procès qui s'ouvre en région parisienne et qui est une première. Une enseignante jugée pour harcèlement moral d'une de ses élèves qui a fini par se suicider. Cette journée de lundi a été consacrée à la carrière de l'enseignante et à l'audition de témoins. À suivre le compte-rendu d'audience de Baptiste Coulon. Mercredi dernier, le président Emmanuel Macron évoquait la nécessité d'investir massivement dans la défense française et européenne. Et parmi les politiques français, le débat fait rage sur la manière de financer ces dépenses exceptionnelles. La France qui s'est dotée ce lundi d'un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. 52 mesures pour préparer le pays aux conséquences d'un réchauffement du climat de 4 degrés d'ici 2100. Simon Rosé nous en dira plus. À suivre aussi le bilan de la France au championnat d'Europe d'athlétisme. Un bon bilan, une médaille d'or, 3 d'argent et 4 de bronze.
24 heures en France.
Dans une dizaine de minutes, rendez-vous avec Caroline Estremo, une ancienne infirmière au CHU de Toulouse, devenue humoriste. Elle fait du stand-up. Le journal de l'Outre-mer, nous irons à la rencontre des apiculteurs de Martinique qui, entre sécheresse et pluie, n'ont pas vraiment le moral. Et puis le Conseil Santé nous expliquera les dangers de l'addiction au smartphone.
RFI.
C'est un procès inédit qui s'est ouvert ce matin à Pontoise, en région parisienne. Celui d'une enseignante de français jugée pour harcèlement moral sur l'une de ses élèves, Eva L., une collégienne de 11 ans, qui a fini par se donner la mort en 2019. Pour l'accusation, le harcèlement subi par l'enfant pourrait avoir contribué au drame. L'enseignante conteste les faits. Elle a été brièvement entendue ce matin. Cet après-midi, ce sont les témoins qui ont déposé à la barre, et notamment l'ancien principal du collège d'Eva L. 3 heures d'interrogatoire difficile pour cet homme qui a été un temps poursuivi pour homicide involontaire dans cette affaire avant la prononciation d'un non-lieu. Baptiste Coulon.
Comme l'ensemble des autres témoins entendus aujourd'hui, c'est un portrait élogieux de la professeure qu'il dresse d'emblée. Elle avait une certaine compétence pour aider les élèves en difficulté par la pédagogie, assure l'homme vêtu d'un costume noir. Mais pour l'accusation, les élèves en difficulté sont justement la cible régulière de l'enseignante. Et à l'époque, le principal avait soutenu cette professeure, défendant sa liberté pédagogique. Alors l'avocate des parents d'Eva L. l'interroge. Pourquoi l'avoir soutenu alors que vous connaissiez les faits qui lui étaient reprochés? Le principal tempère la question, assure qu'il a mené une enquête interne, épluché son dossier, mais rien à lui reprocher, alors il me semblait évident de la soutenir. La même avocate lui rappelle certains mots cruels de l'enseignante à ses élèves. « Tu es débile, attardé, tu termineras en prison. » Je ne peux pas croire qu'elle ait utilisé ces termes, balbutie le témoin, de plus en plus malmené par les questions. 6 ans après les faits, il admet ses regrets, et aux parents d'Eva L. qui l'observent et hochent parfois la tête en signe de réprobation, il exprime la tristesse qui est la sienne. Pour moi, rien ne sera plus jamais comme avant.
Baptiste Coulon. Violence scolaire toujours. Ce lundi, des manifestants ont organisé une mise en scène devant le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Scène de crime factice, soutane, survêtement d'adolescents, pierre tombale. L'objectif était de soutenir les victimes de violences à Bétaram et dans d'autres établissements catholiques. Et aussi de réclamer des actions fortes. Plus de 150 plaintes visent d'anciens religieux et personnels laïcs de Notre-Dame de Bétaram pour violences physiques, agressions sexuelles et viols. Forte hausse des plaintes pour violences sexuelles dans les transports en commun sur ces 8 dernières années. En 2024, près de 3400 victimes ont été enregistrées par la police et la gendarmerie. C'est 6% de plus qu'en 2023 et 86% de plus qu'en 2016, selon les chiffres d'une étude de l'Observatoire de la Mission interministérielle pour la protection des femmes. Des femmes qui représentent 91% des victimes, 99% des personnes mises en cause sont des hommes. À Paris et en Ile-de-France, une enquête de la RATP montre que 7 femmes sur 10 ont été victimes de ce type de violence dans les transports franciliens.
24 heures en France.
Mercredi dernier, pendant son allocution télévisée, le président Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'investir massivement dans la défense française et européenne. Ce qui a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique hexagonale. Le débat fait actuellement rage sur la manière de financer ces dépenses exceptionnelles. Aurélien Devernoy.
Sacrifier nos services publics et notre protection sociale sur l'autel de l'augmentation des dépenses militaires, c'est non merci. Ce cri du cœur est signé de l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, LFI et la gauche en général, qui voit d'un très mauvais œil les propositions émises depuis quelques jours par l'aile libérale du camp présidentiel. En première ligne, l'ancien ministre de l'économie Antoine Armand, pour qui il n'existe qu'un seul choix, couper dans la dépense publique. Diminution du nombre de fonctionnaires, augmentation des heures de travail des enseignants, voire nouveau report de l'âge de départ à la retraite. Absurde pour Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste met en garde contre l'opposition entre le financement des hôpitaux et celui des canons. Imposer une cure d'austérité, ce serait selon lui pousser les Français vers le populisme défendu par Marine Le Pen ou Donald Trump. Une faute morale, ajoute David Cormand. L'eurodéputé écologiste avance une alternative partagée, chose rare, par l'ensemble de la gauche. Faire peser l'effort de financement sur les citoyens et les entreprises les plus aisées. Une option fiscale d'ores et déjà rejetée par Emmanuel Macron.
Aurélien Devernois, UBS condamné ce lundi à Paris à 75 000 euros d'amende, la peine maximale. La banque suisse a été reconnue coupable de harcèlement moral par sa filiale française, harcèlement de deux lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé le système d'évasion fiscale organisé par l'établissement bancaire. La procédure aura duré plus de 15 ans. En parallèle, la banque UBS AG et sa filiale française ont été définitivement condamnés pour avoir mis en place un système d'évasion fiscale massif vers la Suisse entre 2004 et 2012. Il aura fallu de nombreux reports, mais ça y est, la France se dote ce lundi d'un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, le PNACC, présenté ce matin par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Au menu, 52 mesures pour un objectif, préparer la France aux conséquences d'un réchauffement du climat de 4 degrés d'ici 2100. Mais pour ce qui est de mettre tout cela en musique, le document reste bien timide. Simon Rosé.
La moitié des forêts françaises exposées au risque d'incendie en 2050, trois fois plus de vagues de sécheresse à cette échéance, un cinquième des littoraux à risque de submersion et de recul du trait de côte. Les conséquences anticipées du réchauffement climatique sont lourdes et il convient donc de s'y préparer et s'y adapter. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique.
C'est la meilleure façon de protéger les Français contre la perte de leur maison et de leur patrimoine, le risque de perdre leur emploi, puisque 80% des emplois aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre liés à ce qu'on a appelle les actifs naturels. On sait aussi que lorsqu'on investit contre des tempêtes, contre des grêles, ce genre de choses, 1 euro investi permet d'éviter 8 euros de dommages. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que ce sont des investissements rentables.
52 mesures donc, du concret, comme des financements pour aider les villes, entreprises et particuliers à faire des travaux pour réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles et du plus vague, comme le lancement d'une multitude d'études pour déterminer comment mieux adapter les transports, les logements ou les exploitations agricoles. Les associations et acteurs de la transition saluent la vision d'ensemble, mais restent inquiets sur la mise en œuvre. Elle demandera de l'argent et du suivi dans le temps, faute de quoi ce plan national d'adaptation au changement climatique viendra grossir les étagères poussiéreuses des plans oubliés.
Fin du blocage de Sciences Po Strasbourg. Les étudiants qui étaient mobilisés depuis le mois de janvier demandaient la fin du partenariat avec l'université israélienne Reichmann, qu'ils accusent de soutenir la politique du gouvernement israélien à Gaza. Le blocage a donc pris fin ce lundi. Les étudiants ont obtenu la promesse de faire passer le partenariat devant un comité d'examen. Une perte d'attractivité de la France pour les étudiants étrangers. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Cour des comptes publié ce lundi. Les étudiants étrangers optent en fait plus souvent pour les pays anglo-saxons, certains pays européens comme l'Allemagne et la Russie. Il y a de plus en plus d'étudiants venus de l'étranger en France en fait, mais d'autres pays progressent plus vite. C'est ce que note le rapport. En 2019 déjà, le gouvernement reconnaissait un retard dans les politiques d'accueil. En France, les étudiants étrangers viennent à 50% d'Afrique, à 22% d'Asie et à 19% de pays européens. Demain, à Tours, dans le centre de la France, se tiennent les 18e assises du journalisme. Comme chaque année, RFI et plusieurs médias sont partenaires du baromètre Viva Voice sur l'utilité du journalisme. L'année dernière, année des Jeux Olympiques, on avait parlé sport. En 2025, ce qui passionne les Français, ce sont les faits divers. Frédéric Genot.
Ce qui ne change pas, ou presque, c'est la perception que le journalisme est un métier utile pour 86% des personnes interrogées. Et la confiance règne particulièrement pour tout ce qui concerne le sport et la culture. Le fact-checking, qui est censé être une garantie de fiabilité, n'emporte pas forcément l'adhésion des Français, au moment, pourtant, où les infox circulent de plus en plus. Des Français qui se méfient des informations relayées par les réseaux sociaux. Le thème de l'année, les faits divers. Les hommes à égalité avec les femmes ressentent des émotions négatives à une très large majorité, de la colère, de la tristesse, de la curiosité ou du dégoût, de la peur aussi. Les personnes interrogées considèrent que les faits divers devraient occuper une place au moins aussi importante que la politique, l'actualité internationale ou économique. Pour 19% des personnes interrogées, c'est le procès des viols de Mazan qui a le plus marqué l'année. Le deuxième exemple cité spontanément est l'affaire du petit Grégory qui a fait l'objet d'une récente série télévisée.
Frédéric Jeunot, demain mardi, le footballeur Paul Pogba va pouvoir reprendre la compétition. Ce sera la fin des 18 mois de suspension pour dopage du champion du monde 2018. Selon son entourage, il s'entraîne à 1000%, mais Paul Pogba va devoir trouver un nouveau club. Son contrat avec la Juventus de Turin a été résilié en novembre dernier. En athlétisme, les championnats d'Europe en salle se sont terminés ce dimanche. Hier, la délégation française rentre d'Apeldoorn aux Pays-Bas avec 8 médailles, une en or pour Agathe Guillemot sur 1500 mètres, 3 en argent et 4 en bronze. Moins de 2 semaines avant d'enchaîner sur les championnats du monde en salle, Romain Barral, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme, la FFA, est plutôt satisfait de ses résultats.
C'est un bon bilan en termes de médailles. Hein. On est sur un total qu'on a rarement atteint, notamment dans des championnats qui se déroulaient en dehors du territoire français. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, on aurait aimé avoir une médaille supplémentaire parce que ça aurait fait du bien à l'équipe de France. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir aussi, c'est la dynamique qu'il y a dans cette équipe de France. Parce que même quand on n'a pas certains de nos cadors, parce que certains de nos cadors avaient fait l'impasse sur l'hiver, eh bien, on a une réserve d'athlètes qui est capable de reprendre le flambeau, de briller, notamment sur des championnats d'Europe en salle comme ça, d'avoir des surprises et des nouvelles têtes qui émergent. Et ça montre la bonne santé de notre athlétisme.
Romain Barra au micro de Mathis Landais. Ce lundi, la deuxième étape du Paris-Nice a fortement ressemblé à la première. Une victoire au sprint du Belge Tim Merlier et une nouvelle succession de chutes. Demain, la troisième étape, ce sera un contre-la-montre par équipe de 28 km 400. RFI, 23h12 à Paris.
24 heures en France. Christophe Paget.
Nous avons maintenant rendez-vous avec Caroline Estremo, une ancienne infirmière au CHU de Toulouse, devenue humoriste, après une vidéo virale dans laquelle elle décrivait son quotidien de soignante. Dans son nouveau spectacle « Normalement », elle raconte avec humour et autodérision comment elle a quitté son mari pour sa meilleure amie, après 6 mois de mariage, et les conséquences évidemment dans sa famille. Caroline Estremo répond aux questions d'Elisabeth Le Quéré.
Caroline Estremo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous faites du stand-up et vous produisez presque chaque soir dans une nouvelle salle. Je crois que tout ça a commencé en 2016.
Oui.
Par une vidéo.
Exactement. Ça commence en 2016 où je balance une vidéo sur les réseaux sociaux sur mon quotidien d'infirmière qui en fait fait le buzz.
Mais bon, les urgences, c'est pas trop ce qu'on croit. C'est pas du House, du George Clooney, du Grey's Anatomy. Non, les urgences, c'est plutôt... Oui, voilà, je viens vous voir parce que je suis inquiet. J'ai des boutons sur l'ensemble du corps et ça me gratte fortement. Oui, donc ça, manifestement, monsieur, ce sont des boutons de moustiques, voilà.
Et puis de là, on me contacte pour écrire un livre, on me contacte pour écrire un spectacle. Moi, je dis ok, je suis pas contrariante. Et en fait, je fais mes premiers pas sur scène avec mon spectacle sur les infirmières en avril 2017, si je dis pas de bêtises. Et en fait, une fois que j'y suis, ça me plaît. J'ai mal au ventre, hein. Mais alors qu'est-ce que ça me plaît? Et puis voilà, et en fait, vu que ça prend, je me dis, pourquoi pas, tentons.
Caroline Estremo, vous le disiez, vous avez tellement aimé la scène que vous avez écrit un deuxième spectacle de stand-up, ça s'appelle Normalement, ça se joue en ce moment dans la France entière, et vous racontez comment vous avez quitté votre mari pour une femme, ouais. Et vous le racontez comme si c'était une série de Netflix.
Mais parce que c'est le cas, c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais le raconter, pour dire à tout le monde que c'était possible en fait. On avait le droit, on a le droit et on peut changer de voie, que ce soit en amour, professionnellement ou autre. Et c'est ce que raconte mon spectacle.
Et dans ce spectacle, vous racontez que le tsunami que ça a été, ce que ça a provoqué dans votre famille et belle famille. Ouais. Comment vous l'avez approché ce spectacle? Parce que dans le premier, vous parliez de votre métier, mais là, vous entrez carrément dans l'intime. Ouais.
Je me suis dit, sois sincère. Il y avait quand même un petit bémol, mais j'avais peur de ma belle-famille. Comme ça, c'est très mal passé. Donc, j'ai demandé à ma belle-mère, je lui ai dit, est-ce que tu veux lire le spectacle avant? Elle m'a dit, non, il faut que tu sois vraiment sincère et que tu racontes ce qui s'est passé. Parce que si ça peut aider d'autres familles à mieux réagir que nous, fonce.
Votre belle-mère, Marielle, qui est donc un personnage très important du spectacle.
Oui, parce que je lui ai toujours dit, écoute-moi bien, je suis bien amusée à me venger, mais avec bienveillance.
Jacques, en bonne santé, mais t'es lesbienne, tu pouvais pas te forcer.
Caroline Estremo, est-ce que le spectacle permet de prendre une forme de distance?
Je sais pas. Oui, peut-être. En tout cas, ça donne l'impression que tout est possible.
Comment on pourrait définir le rapport que vous avez avec le public?
Moi, ce que je voulais faire avec ce spectacle, c'est vraiment de créer la sensation qu'on passe une soirée entre potes. Et j'avoue que plus je suis moi, mieux ça connecte. Et ça fait juste passer une soirée super cool, autant pour eux, je l'espère, que pour moi.
Et qu'est-ce qui vous fait rire dans la vraie vie?
Non mais tout me fait rire, c'est ça le problème, c'est que tout me fait rire. Je suis vraiment capable, je le dis souvent, mais c'est vrai, je suis capable d'avoir un fou rire à l'enterrement. La moindre chose me fait rire, ou en tout cas si elle me fait pas rire, je trouve le moyen de me faire rire. Donc voilà, ouais, je sais, c'est un peu... Mais je suis accro à la dopamine, à tout ce qui finit en in, et voilà, les endorphines. Et donc moi j'aime rire de tout, voilà. Et tant que je pourrais faire ça, ce sera super bien.
Caroline Estremo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Caroline Estremo au micro d'Elisabeth Lequerré. Elle sera à Feur près de Lyon le 13 mars et à Paris le 17. Caroline Estremo, hein, pas Elisabeth Lequerré. La pratique du vélo en France a sensiblement augmenté ces dernières années, tant mieux. Mais qui dit vélo dit aussi évidemment crevaison et déraillement, entre autres. Et réparer soi-même son vélo, c'est une pratique qui rencontre de plus en plus d'adeptes. Les ateliers d'auto-réparation se multiplient ainsi en France. Benoît Narbonne s'est rendu dans l'un d'entre eux, dans le 11e arrondissement de Paris. Reportage.
Une vingtaine de vieux vélos entassés, des centaines de pièces d'occasion rangées par catégorie sur une étagère et des outils posés au mur. Dans l'atelier de la cyclette, tout est à disposition pour remettre à neuf son vélo. Margot Franquet est une employée de l'association. Elle n'est pas là pour réparer les vélos, mais pour aider à les réparer par soi-même.
Dans l'atelier, quand les adhérents viennent, les gens viennent, ils peuvent venir et en autonomie réparer leur vélo. S'ils n'ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'aller les aider. Ils peuvent aussi nous appeler. Il y a pas mal de gens qui ont besoin d'aide en fait la première fois qu'ils viennent.
En échange d'une adhésion de 30 euros par an ou de 15 pour les étudiants, les cyclistes peuvent venir réparer eux-mêmes leurs deux roues en utilisant des pièces récupérées. Pour Margot, ils ont tout à gagner à savoir réviser eux-mêmes leur vélo.
Ouais, la réparation d'un vélo, quand on apprend à le faire soi-même, ça a un intérêt hyper pédagogique, on sait ce qui se passe dessus. Un intérêt économique, c'est imbattable, on ne peut pas avoir moins cher que sa propre main d'œuvre. Et les pièces détachées aussi, elles sont à des prix imbattables puisqu'elles sont à prix libre.
Les cheveux attachés à la va-vite, Agnessa, 23 ans, est une cycliste aguerrie. Elle possède trois vélos différents et vient modifier celui qui lui sert pour ses trajets en ville, un vieux vélo de course orange fluo.
Il est un tout petit peu trop grand, donc j'essaye de voir qu'est-ce que je peux modifier pour faire en sorte que ça soit confortable.
Elle endosse un des bleus de travail en libre accès et retrousse ses mains.
Ouais, c'est écologique, économique, mais c'est aussi parce que c'est gratifiant d'apprendre à connaître son vélo et savoir le réparer. La première fois que j'ai changé une roue, je me suis sentie ultra forte. Ça me paraissait ultra dur et en fait c'était assez facile. Et puis en fait là, ça me permet d'avoir plein d'outils, d'avoir plein de conseils différents et c'est assez cool, quoi.
Une autre activité de l'atelier, la récupération de vieux vélos abandonnés ou abîmés. Marc est un stagiaire de la cyclette, il examine l'un d'entre eux.
C'est un vélo qu'on pourrait soit remonter et le mettre à la vente, soit le mettre au démontage pour récupérer les pièces. Donc pour s'assurer de sa destination un peu, on teste la potence, par exemple la tige de selle, qui là est encore bloquée. Ce vélo pourrait être à remonter.
Si le vélo peut être remis en état, il sera ensuite proposé à prix cassé aux adhérents de l'atelier ou utilisé pour des sorties organisées avec d'autres associations. En France, le réseau L'Heureux Cyclage recense près de 538 ateliers d'autoréparation sur tout le territoire.
Un reportage de Benoît Narbonne.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
RFI 18h18 à Fort-de-France.
Le journal des Outre-mer.
Et en Martinique, les apiculteurs ont plus que jamais le moral dans les chaussettes. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Victimes en 2024 de la sécheresse, ils sont cette fois-ci confrontés à des précipitations trop abondantes. En résumé, le microclimat nécessaire aux abeilles serait de moins en moins souvent au rendez-vous. Reportage Christine Cupit.
Patrick William est apiculteur. Ses ruchers se trouvent dans le sud de l'île à plusieurs endroits, Anse-d'Arlet, Rivière-Salée, Vauclin et Sainte-Anne. Avec les fortes pluies de ces derniers mois, son activité a pris du plomb dans l'aile. Les pertes sont importantes.
Avec ce début d'année, là, on a une pluviométrie excessive. Donc, il y a un appauvissement des provisions en nectar ou en pollen. J'ai pratiquement un rucher presque anéanti. Il n'est pas totalement anéanti sur les Anse-d'Arlet. J'ai déjà perdu plus de la moitié de mon cheptel aux Anse-d'Arlet et je ne suis pas le seul.
Les apiculteurs ne comptent pas trop sur les subventions pour compenser les pertes subies. La plupart n'a pas bénéficié des dernières aides prévues pour la filière.
De manière générale, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas bénéficié des fonds. Il y avait un seuil à atteindre, un seuil de perte à atteindre. À partir du moment où on n'a pas ce seuil de perte, vous n'êtes pas éligible. Mais même là, pour la sécheresse-là, je vous dis, on nous demande tellement de justificatifs que très peu de personnes ont émargé pour cette aide.
Cette année encore, le miel de Martinique sera une denrée rare. Il est vrai que l'offre de miel local reste largement insuffisante comparée à la demande. C'est pourquoi notre territoire importe depuis des années du miel de Cuba notamment, un miel garanti sans pesticides, ce qui n'est pas forcément le cas pour le miel provenant de l'Union européenne.
Reconstruire après un cyclone ou tout simplement construire, c'est bien, mais autant le faire si possible mieux qu'avant et en un peu plus solide ou en tout cas plus adapté au climat. C'est tout le sens d'une proposition de loi présentée par une sénatrice de La Réunion et adoptée à l'unanimité la semaine dernière. Olivier de la Richaudie.
En avril 2024, le Parlement européen votait déjà l'assouplissement des normes du BTP pour les régions ultrapériphériques, une autorisation qui manquait néanmoins d'un cadre d'application. Avec cette proposition de loi, la filière peut définir ses normes du bâti tropical, décider quels matériaux et quels procédés techniques sont les plus adaptés pour construire durablement à La Réunion. Il faut prendre en compte l'ensoleillement, le taux d'humidité, les phénomènes extrêmes et même le vieillissement de la population, rappelle la sénatrice Audrey Bélim. Pour les acteurs du BTP, grandes entreprises, artisans, mais aussi experts et chercheurs, le cahier des charges est aussi économique. Moins d'importations fait baisser les coûts de construction et rend le logement plus abordable. Il s'agira d'associer l'innovation, facteur de plus-value pour une filière en détresse, et le bon sens. L'élu socialiste pose une première pierre en proposant de s'inspirer des normes anticycloniques australiennes, plus récentes et plus protectrices.
Et puis, cyclone ou pas, la réglementation à la française ne perd décidément jamais ses droits. C'est ainsi que des tonnes d'aides récoltées en métropole par une association d'Ille-et-Vilaine n'ont pas encore pu être envoyées à Mayotte, presque 3 mois après le passage de Chido. Raphaël Kahn.
10 jours après Chido, la collecte est lancée. 1 mois après Chido, les 22 tonnes sont prêtes à partir. 11 palettes d'eau, des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements. Près de 3 mois après Chido, le conteneur est toujours en Bretagne. La douane avait assuré que ça prendrait 2 semaines, puis les demandes de documents supplémentaires se sont enchaînées. Un courrier a été envoyé au sénateur Saïd Omar Wali, qui a assuré qu'il en parlerait au ministre des Outre-mer. En attendant, Bouger Bouger est en lien avec d'autres associations qui veulent elles aussi envoyer des conteneurs à Mayotte. Payer les droits de douane plein pot n'est pas une solution pour ces structures avec peu de trésorerie, mais un désir d'aider un département sinistré.
On termine avec ces petits paquets d'algues brunes qui viennent s'échouer depuis quelques jours sur le littoral guyanais du côté de Rémire-Montjoly. Il s'agit, on l'aura compris, des tristement célèbres algues sargasses, mais rien à voir, fort heureusement et pour l'instant, avec le déferlement que subissent régulièrement la Martinique et la Guadeloupe, comme l'explique l'océanographe Fabien Blanchard au micro de Jocelyne Elgouache.
C'est toxique à partir du moment où il y aura des grandes quantités. Là, s'il y a des grandes quantités de gaz, effectivement, pour la santé, ça peut être un problème. Mais les quantités qui s'échouent en Guyane, d'après ce qui a été mesuré régulièrement par les services de l'État, n'ont pas montré des taux qui étaient vraiment inquiétants. Les quantités de sargasses échouées ici sont vraiment pas grandes par rapport à ce qu'on observe aux Antilles, par exemple. Ces sargasses, elles arrivent, grosso modo, du large du Brésil, au large de l'Amazone, et elles remontent avec le courant Nord-Brésil, depuis le large du Brésil, donc jusque chez nous.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée à vous aussi.
Le conseil santé avec Suno Assurance.
C'est un objet que tout le monde a à portée de main, si ça se trouve, vous écoutez 24 heures en France avec, le smartphone. Depuis une quinzaine d'années, il s'est imposé dans nos vies jusqu'à en occuper une partie parfois excessive. C'est le conseil santé du jour. Quel risque comporte l'utilisation excessive du smartphone? On voit ça avec Caroline Paré et son invité.
Docteur Alain Toledano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue directeur de la chaire de recherche en santé intégrative au Conservatoire des arts et métiers à Paris. Quand on parle d'usage problématique d'un smartphone, de quoi s'agit-il?
C'est le fait d'utiliser de façon excessive son smartphone, de façon compulsive, sans contrôle, avec un besoin irrésistible de se connecter. C'est 7 personnes sur 10 qui ont été interrogées et qui n'arrivent pas à s'en passer.
Vous êtes médecin, ça peut avoir quoi comme conséquence pour la santé?
Des conséquences sur la santé mentale, altération des relations avec l'autre, un sentiment d'insécurité, de l'anxiété, de la dépression, une perte d'autonomie, mais également des troubles musculo-squelettiques, des troubles visuels, une baisse du sport et avec une augmentation du risque cardiovasculaire. Ça dépend de l'usage qu'on en fait.
Est-ce que les gens ont vraiment conscience que ce petit objet a priori anodin, eh bien, il peut justement comporter de tels risques?
L'objet a évolué. Au début, on utilisait des téléphones et puis c'est devenu des réveils. Puis c'est devenu des calendriers, des ordinateurs. Et finalement, on a tout rassemblé dans un même objet qui, en plus, nous procure du plaisir. Et on se rend plus compte de tout ce que ça fait.
Ça veut dire que ça peut être pratique, mais c'est pas forcément aussi anodin que ça en a l'air.
Ça peut être pratique, mais nous donne accès au monde par Internet. Et il y a des pratiques qui commencent à être problématiques avec des usages excessifs.
Merci docteur Alain Toledano. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de l'épilepsie chez l'enfant, dépistage, prise en charge, lutte contre la stigmatisation et ajustement des traitements pour limiter la survenue des crises. Priorité Santé, c'est à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré, c'est bientôt la fin de 24 heures en France. Merci à Fabrice Violet à la réalisation et à Charlotte Derouin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Avant cela, une question. Quelle est la place des mathématiques dans la société française? Le CNRS lance une grande consultation citoyenne par Internet sur le sujet jusqu'au 30 avril. Car si la France reste en pointe en mathématiques dans la recherche, la discipline souffre d'un décrochage des filles à l'école et d'un manque d'attractivité. L'objectif de cette consultation, c'est donc de mieux comprendre les besoins, mais aussi les freins liés à l'apprentissage des mathématiques. Avant cela, avant de passer à Afrique Soir, on va passer à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et le rendez-vous de Wall Street, la Bourse de New York, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence bien mal la semaine avec un plongeon de 890 points. Il revient à 41 912, l'indice du Nasdaq s'effondre de 729 points, clôturant à 17 468. Wall Street est de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de l'instauration durable de barrières douanières en vue de protéger des entreprises américaines de la concurrence internationale, et ce, dans l'idée de Donald Trump, de garantir un niveau d'emploi et de rémunération supérieur. Les investisseurs pouvaient s'accorder de droits de douane censés forcer les partenaires commerciaux des États-Unis à faire des concessions. Mais Donald Trump, aujourd'hui, parle d'aller bien plus loin. Il lance l'idée d'accepter une période de récession à court terme, le temps de faire la transition vers une économie protégée. Le marché redoute qu'avec un consommateur américain fatigué, un rebond de l'inflation lié aux droits de douane et une escalade des guerres commerciales, l'économie des États-Unis tombe en récession. Les économistes des banques JP Morgan Chase et Goldman Sachs relèvent d'ailleurs leurs estimations de risque de récession. Dans ce contexte, les valeurs de la haute technologie ainsi que Tesla s'effondrent. L'euro retombe à 1,0833, le baril de pétrole américain chute de moins de 2% et finit à 66$. L'indice Dow Jones plonge aujourd'hui de 2,1%, le Nasdaq s'effondre de 4%. C'est la pire séance pour le Nasdaq depuis septembre 2022.
Merci Pierre-Yves Dugas et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter les journaux sur notre site www.rfi.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.